tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour, aujourd'hui les Landes, c'est ma nature, se trouve à côté de Saint-Justin dans le très joli quartier de Douzevielle, un lieu qui s'appelle Le Badiote, une petite ferme où vivent Marie-Claire Labatte et Jérôme Coste. Jérôme Coste qui est retraité de l'agriculture et Marie-Claire Labatte qui est spécialiste des plants bio de légumes essentiellement. Alors bonjour Marie-Claire et bonjour Jérôme.
Bonjour à vous.
Bonjour mesdames.
Vous allez vous présenter tous les deux. Tout d'abord, alors Marie-Claire, honneur aux dames.
Donc je suis Marie-Claire Labatte, je produis des plants de légumes bio ainsi que de fleurs d'ailleurs, hein, dans une serre de 200 mètres carrés.
Et Jérôme ?
Jérôme Coste, je suis un jeune retraité, j'ai travaillé pendant 20 ans au jardin Honnerre à Mont-de-Marsan où j'ai monté le jardin en culture biologique.
On va revenir sur votre parcours, Marie-Claire.
Donc en fait moi j'ai un parcours qui est double, hein. J'ai une formation en anglais et j'ai fait de l'enseignement, j'ai donné des cours particuliers, je suis aussi intervenue dans les écoles primaires et j'ai aussi un BTS agricole, technique agricole et gestion d'entreprise. J'ai fait des travaux saisonniers, j'ai été contrôleur maïs-semences et là je produis depuis une dizaine d'années des plants, de légumes et de fleurs en agrobiologie.
Et Jérôme, vous avez toujours été dans l'agriculture ?
Oui, j'ai été ouvrier agricole jusqu'à 30 ans et j'ai eu la chance de rentrer dans un ESAT, l'ESAT de Capsieux, en Gironde, où je m'occupais d'élevage de volailles, abattage et vente. Et au bout de 10 ans, j'ai eu la chance de trouver les jardins Honnerre à Mont-de-Marsan, où j'ai œuvré pour l'agriculture biologique.
Alors tous les deux, vous êtes originaires de la région ?
En ce qui me concerne, oui, hein, l'Abatte. On l'Abatte en occitan, la vallée, hein, disons qu'on est très représentatif. Hein, y a certains noms qui sont très représentatifs quand même des Landes.
Eh bien, je suis originaire du village, Saint-Justin.
Oh, bah parfait. Alors, vous allez peut-être un petit peu détailler ce qui vous a amené à vous installer en bio, parce que vous nous en avez parlé, mais là, c'est pour nos auditeurs, je crois que ça serait intéressant de voir comment la chose s'est faite.
Alors, moi, je suis d'origine agricole et mon père travaillait sur ses terres, hein, puisqu'on est sur la ferme familiale. Il utilisait peu de produits chimiques et fonctionner avec du fumier de volaille. Dans ce sens, on me retrouve à produire en agrobiologie. Il est vrai aussi qu'il y a tout un entourage, ou amis, ou famille, ou voisins, qui continuent à fonctionner pour leur jardin sans produits chimiques, qui regardent la lune pour semer leurs plantes, leurs graines. Donc il y a toute une logique qui fait que je suis en agriculture bio. Mais il y a aussi de l'idéologie, hein. Parce que l'agriculture bio, c'est minimiser la pollution, c'est minimiser aussi le réchauffement climatique, enfin, des problèmes qui, à l'heure actuelle, nous encombrent pas mal, étant donné les canicules qu'il y a eu cet été.
Bon, vous avez travaillé à l'ESEAT de Nonnerre et auparavant déjà dans une autre ESEAT. Donc, vous avez trouvé un intérêt à vous diriger à la fois vers une culture biologique et aussi dans des structures d'insertion. Alors, quel est l'intérêt du lien ?
On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je travaillais sur mes 30 ans au service de remplacement en agriculture. Je suis arrivé chez un agriculteur qui m'a dit qu'il cherchait un moniteur d'atelier à l'ESAT de Capsieux. Donc je suis parti là et j'y suis resté 30 ans en fait. Mais ce n'était pas un projet de départ. Et j'ai beaucoup aimé le travail des handicapés. Et en plus, en faisant de l'agriculture biologique, là, j'étais très content.
Alors, justement, quel lien avez-vous pu mettre en place avec ces personnes handicapées ?
Mais le rapport à la terre, le fait de faire pousser, de semer un légume, de le voir pousser, c'est toute une pédagogie qui se mettait en place.
Parce qu'au départ, ils n'étaient pas forcément issus du milieu agricole, eux.
Non, pas du tout. Il y avait un peu toutes sortes de gens. Il fallait les amener à s'intéresser à ces choses-là. Et c'est un travail de longue haleine où il faut répéter. Mais je pense qu'ils appréciaient. Ils appréciaient ce travail.
C'est un travail fatigant. Quand on n'a pas l'habitude des gestes, déjà, ce n'est pas un automatisme. Effectivement, comme vous dites, il faut répéter. Il faut que les gestes deviennent un peu automatiques quand même. La difficulté, elle est là quand on n'est pas issu du milieu agricole.
C'est un apprentissage, comme pour toutes sortes de travail.
D'accord. Voilà. Nous allons demander à Marie-Claire une première chanson qu'elle a choisie. Et pourquoi elle l'a choisie ?
Alors, moi, j'ai choisi Bob Marley, Get Up, Stand Up. C'est quelqu'un qui militait, qui demandait à ses pairs de se lever, de lutter pour leurs droits. C'est quelqu'un qui luttait contre la ségrégation, par extension, l'esclavage, par extension, l'exploitation du Sud par le Nord. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il faudrait se lever pour lutter pour des enjeux environnementaux, étant donné, enfin, comme je l'ai dit, là, l'espèce de catastrophisme à l'heure actuelle, par exemple, au niveau du réchauffement climatique, où tout le monde a énormément souffert cet été. Il faudrait peut-être prendre vraiment les choses à bras le corps. Oui, il faudrait se lever et se battre, hein. Voilà pourquoi Bob Marley, qui était quelqu'un de combatif.
Très bien. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. And half the story I'd never been told. So now you see the light. You stand up for your right. Get up, stand up.
Get up, stand up. Don't give up the fight. right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Eh bien, dans la première partie de l'émission L'élan de c'est ma nature, nous sommes chez Marie-Claire Labatte et Jérôme Coste à Saint-Justin, près de Saint-Justin, et ils nous ont expliqué comment ils sont arrivés à l'activité actuelle de production de plants bio. Et maintenant, nous allons les écouter nous indiquer comment se fait cette exploitation, quels sont les plants qui sont produits. Et c'est Marie-Claire qui va commencer.
Donc en fait, je choisis des plants de légumes et de fleurs au départ pour concevoir le potager biologique. Hein. En fait, je vais proposer des fleurs aussi, comme la bourrache qui va attirer particulièrement les abeilles et favoriser la pollinisation au niveau des courgettes. Hein. Ce sont des exemples. C'est tout un ensemble. Hein. Je propose des plants de légumes et des plants de fleurs. Et le tout entremêlé pour favoriser la production. Donc en ce qui concerne les légumes, on va dire que les légumes qui sont choisis sont quasiment testés au jardin avant. Donc on va retenir certaines variétés qui sont rustiques. La tomate cerise miel du Mexique est une variété rustique. On va retenir des tomates très goûteuses. C'est par exemple la tomate noire de Crimée, noire de Russie, Green Zebra aussi. De préférence des variétés anciennes. Il y a aussi des choses un peu de couleur esthétique, hein, que le jardin soit beau. Là-dessus, on arrive à tout un éventail, une dizaine de plants de tomates, de variétés de tomates. Il y en a 4 de piment, 4 d'aubergines. Alors pour les courges, on a 2 variétés de melon, 2 de concombre, etc. 3 variétés de courgettes. Ce qui concerne les basiliques, on vient un peu de les sentir ensemble. Hein. On a fait la différence entre les basiliques grandes feuilles, les basiliques grecques, les basiliques rouges et le basilic thaï. Donc voilà un peu pour tout l'éventail de légumes proposés. Mm-hmm. Ce sont des choix, hein, c'est clair. Il n'y a pas d'hybride, hein. C'est un choix qui est fait.
Alors par exemple, je vais vous poser une question là. Quand on parle de Green Zebra ou de Noir de Crimée, bon, on n'a pas l'impression que ce sont des espèces particulièrement locales. D'où viennent-elles quand même ces espèces-là?
Alors, Noir de Crimée est une variété ancienne. Hein. Est-ce qu'à l'origine, elle vient de Crimée? Je pense que oui, hein, en fait. Alors c'est à vérifier, mais je ne suis pas pointue sur tout, mais à mon avis, oui. Hein. Mm-hmm. Voilà. Pour Green Zebra, par contre, c'est une variété qui est un peu plus récente. Hein. Je crois que c'est Tom Wagner qui l'a mise au point. Bon, c'est une variété qui est très goûteuse, qui est excellente. C'est une variété rustique aussi, qui tient bien au mildiou. Hein, donc, de manière générale, ce sont des variétés anciennes qui sont retenues.
Alors, par exemple, souvent on aime bien la cornue des Andes pour les salades. Mais bon, en ce qui me concerne, dans mon petit jardin, la cornue des Andes, en général, elle prend très mal. Hein. Elle s'abîme, elle est malade. Est-ce que c'est logique?
Alors, elle s'abîme et elle est malade. Disons que les tomates ne sont pas très adaptées à la chaleur tropicale qu'il y a eu cette année. Il fait très chaud, 40 degrés, et ensuite il y a des pluies diluviennes. C'est pas le climat qui lui convient. Hein. Donc en fait, dans ce cas-là, il faut déjà se préserver du mildiou en faisant des purins de prêle tous les 15 jours. Ensuite, certains maraîchers ont un peu ras-le-bol, oui, de ramasser des tomates pas très très belles ou même en plein champ, et malheureusement, ils font leur production sous serre. Et certains jardiniers, enfin ici, produisent leurs tomates sous serre pour les protéger de la pluie. Mmh. Donc voilà pourquoi la tomate peut être malade cette année, pourquoi il peut y avoir du mildiou. Et ça devient quand même assez compliqué, hein. C'est pas facile le jardinage bio, hein, avec des températures équatoriales.
Alors effectivement, on a eu cette difficulté qui s'est accentuée, hein, déjà l'année dernière. Il y a quand même eu une période de grosse chaleur pendant assez longtemps, la pluie est très irrégulière. Là, vous, comment faites-vous justement pour arroser?
Alors, arroser les plants dans la serre. En un premier temps, l'arrosage des semis se fait avec l'eau de pluie. Ensuite, arroser les plants disposés dans la serre avec l'eau de pluie, là, il me faudrait un autre système. Il faudrait qu'il y ait suffisamment d'eau de pluie. Donc, je ne peux pas forcément suivre sur toute la plantation. Par contre, au semis, c'est que de l'eau de pluie. Et aussi, je sème en fonction de la lune, en suivant un calendrier lunaire, pour que ces plants soient le plus robustes possible. C'est mon but, le plus productif possible pour le jardinier.
Alors, revenons un petit peu à l'origine. Vous faites les semis à partir de graines, par contre, que vous ne pouvez pas produire vous et que vous achetez.
Oui, je ne peux pas véritablement produire mes graines parce qu'en fait, il peut y avoir des problèmes d'hybridation, notamment sur les courges. Si les deux variétés s'hybrident, on arrive à des choses... c'est pas un potimarron, c'est pas une courge... vive des tempes, on ne sait pas, donc moi en tant que vendeur je ne peux pas me permettre ça. Alors je pourrais produire des graines si je fonctionnais comme les semenciers, c'est-à-dire que si je mettais des filets pour que le pollen des uns ne passe pas chez les autres. Par contre dans ce sens, si je devais faire tout ça pour produire 300 ou 400 graines, à la limite je pourrais devenir semencier, ce qui n'est pas mon but. Donc en fait je suis obligée de passer par SM Bio essentiellement, qui est à Lectour, qui produit des graines bio, qui est juste à côté, dans le Gers. Et je ne peux garder que certaines choses. Alors parfois sur le basilic je conserve des graines, sur les fleurs aussi, le cosmos, le tournesol. Mais même sur les variétés anciennes c'est difficile, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'hybridation.
Alors en particulier, on a eu l'occasion tout à l'heure de sentir comme on veut le basilic thaï, que je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment délicieux, qui a une petite odeur mentholée. Et que, ma foi, j'invite tous les auditeurs à se procurer des plants de basilic thaï auprès de Marie-Claire quand ça sera la saison. Alors, il est temps maintenant pour Marie-Claire de présenter une seconde chanson.
Donc, j'ai choisi pour vous Rokia Traoré, une belle balade africaine, Mouneissa, avec une très très belle voix.
Très bien, merci, on va l'écouter.
Oh,
Marie-Claire et moi sommes aujourd'hui au Badiote à Saint-Justin dans le joli petit quartier de Douzevielle chez Marie-Claire Labatte qui nous a expliqué d'abord son parcours, comment elle était arrivée donc à s'installer, notamment à produire des plants bio après une formation agricole. Et ensuite, elle nous a détaillé son activité et voilà maintenant qu'elle va nous parler de ses projets et que nos auditeurs pourront avoir ensuite ses coordonnées. Alors, pour revenir à notre culture, combien de temps dure votre activité de plante ?
Alors, je commence mes semis début février et je fais des rotations de semis. Il y a des décalages dans les semis pour proposer aux jardiniers des plantes de meilleure qualité. Donc, je fais un minimum de 3 à 4 semis. Qui se déroule de début février à mi-avril pour les semis. Il y a aussi un gros travail de repiquage qui commence à partir du 20 mars jusqu'à mi-avril. Et la vente se déroule du 20 avril à fin juin, même début juillet. Enfin, parfois, j'ai des demandes carrément jusqu'à mi-juillet, que je peux honorer ou pas. Ça dépend de ce qu'il me reste dans la serre. Voilà pour le cycle. Il y a toute une préparation, bien sûr, de matériel, de nettoyage, etc. Quoi.
Donc, vous procurez des graines bio, vous faites des semis bio et vous vendez des plants bio. Bien entendu, il y a une certification pour que les gens qui achètent soient absolument sûrs de ce qu'ils vous achètent. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe ?
Alors, la certification est obligatoire en agriculture biologique. L'agriculteur bio est tenu de suivre un cahier des charges. Il y a plusieurs organismes qui font les certifications. Je pense qu'on ne peut pas faire de pub à la radio, donc je ne citerai pas l'organisme qui fait la mienne, mais c'est le département à côté du Gers. Donc, en ce qui concerne les contrôles, d'abord, il y a un contrôle de terrain et sur facture qui est organisé, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous qui est pris par un contrôleur d'un organisme. Donc, on va sur le terrain voir les jardins, la serre, mais aussi compter tous les sacs de terreau, voir leur destination et compter tous les sacs de terreau un à un. Je suis tenue de conserver tous les sacs de terreau. Montrer tout le stock de graines et compter tous les sachets de graines vides. Je suis tenue de conserver, sur un an, tous les sachets de graines vides. Je conserve aussi tous les bidons de purin de prêle, d'ortie, puisqu'il y a des plantes qu'on n'a pas et on est obligé de les acheter. Lithotam pour cette année. Il faut conserver tous les sacs, tous les bidons. Voilà pour le contrôle de terrain. Des analyses sont possibles s'il y a de suspection. Ensuite, on a aussi un contrôle sur facture. Quelle est la provenance? Chaque fois, il faut fournir le certificat du fournisseur. Donc pour Magellan où j'achète des graines, et Symbio, l'Oreki pour le terreau. Ça c'est une première partie pour le contrôle. Il y a aussi une deuxième partie, c'est-à-dire que j'ai signé un papier pour que le contrôleur puisse venir à tout moment dans la serre, sur les terres, sans que j'en sois averti, pour qu'il le vérifie, qu'il rentre, etc.
Nous voyons là que c'est extrêmement contrôlé, tout à fait à l'opposé de ce que certaines couvertures de magazines racoleuses qui mettent en cause le bio. Alors, bien sûr, il peut y avoir des effets d'annonce, il peut y avoir du faux bio, mais quand il y a une certification, le contrôle est très rigoureux et donc on peut faire confiance et ne pas tomber sous la propagande des lobbies de l'agrochimie.
Avez-vous des projets ?
Alors, les projets, c'est en fait de mieux valoriser encore la serre. Il faudrait toucher un peu plus de jardiniers, de jardiniers amateurs, de citadins qui ont simplement un rebord de fenêtre, mais enfin qui peuvent aussi avoir des condimentaires sur le rebord de la fenêtre. Et peut-être en donnant plus de conseils. Alors, les conseils, ils se font quand il y a un contact direct avec la clientèle. Ils peuvent se faire sur des marchés organisés par des magasins bio, au cours d'animations aussi. Alors peut-être faire quelques animations dans les magasins bio. Et ils peuvent se faire aussi en vente directe. Je crois que c'est le but là. Je peux aussi continuer à travailler sur les propositions de plants de légumes, affinés, présenter des nouveautés, par exemple une courgette ronde, jaune, un concombre rond pourrait être présenté pour l'année prochaine, mais c'est toujours dans l'idée de amener la campagne à la ville, de reconnecter les gens au jardinage, même s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de jardin. Quelques pots sur un balcon font l'affaire. Reconnecter à la nature, même en pleine ville, on peut faire, suivre le cycle de la plante. Voilà l'idée générale, la campagne à la ville.
C'est une excellente suggestion et on aimerait effectivement que ça soit développé au maximum.
Alors justement, vous avez parlé que vous éleviez vos plants en suivant le calendrier lunaire. Donc, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un atelier que vous pourriez animer, par exemple, parce que sûrement que les gens sont très intéressés par cette idée.
Alors oui, animer des ateliers, mais alors c'est dans quel cadre? Faire des propositions au niveau des magasins bio? Comment semer ces plantes en fonction du calendrier lunaire? Alors il y aurait peut-être aussi une idée de faire venir des enfants, qu'on peut devenir ici ferme pédagogique, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond en fait. Oui, faire découvrir, mais peut-être que vous allez me donner des idées, me renvoyer des choses par rapport à ça, parce que je ne sais pas trop en fait comment.
Dans la réforme scolaire qui est en cours, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a une idée quand même intéressante, c'est de faire des potagers par les enfants à l'école élémentaire. Donc justement, après il faut savoir faire ces potagers, donc vous pourriez justement expliquer la façon de cultiver en fonction du calendrier lunaire et vous insérer dans cette démarche, quoi. Ça, c'est une très bonne idée. Pour le reste, personnel.
Alors maintenant que nous arrivons à la fin de cette émission, Marie-Claire Labatte va donner aux auditeurs ses coordonnées s'ils veulent venir acheter des plants de légumes ou de fleurs, donc pour le printemps, fin du printemps notamment.
Vous pouvez venir à la serre sur rendez-vous, bien sûr, acheter des légumes, des plants de légumes et de fleurs à partir du 20 avril. À vous de me contacter au 06 17 47 83 12. 06 17 47 83 12. Vous serez les bienvenus.
Un autre moyen de contact, Facebook, non ?
Disons que c'est un peu plus compliqué pour moi sur Internet. Non, je préfère le contact téléphonique. Surprise de rendez-vous, de préférence le matin, parce qu'il y a quand même du monde dans la serre, dont pas mal de nids de guêpes. Donc les plants sont vendus essentiellement le matin si vous voulez voir la serre.
Bon, mais très bien. Merci beaucoup de nous avoir tous les deux reçus, Marie-Claire et moi. Donc on vous dit Adichat, si on dit Adichat à nos auditeurs.
Je vous dis au revoir et à la prochaine, à bientôt.
Oui.
Adichat.
Adichat.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature, le lundi de 15h à 15h30, rediffusion en trois parties, le mardi, le mercredi et le jeudi à 13h sur MDM.